Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à suivre. Notre invité, c'est le réalisateur, l'acteur Franck Gastambide. Là, il fait les deux dans un nouveau film, un film d'action déjanté, s'appelle Medellin. Ça sort aujourd'hui sur la plateforme Prime Video. Il a choisi Europe 1 pour en parler en direct. Olivier Benkemoun, rebonjour.
Bonjour Philippe.
Vous étiez avec nous, vous restez avec nous, on en est ravis. Laurent Mariotte, je vous salue également, bonjour.
Mes respects Philippe Vandel, bonjour.
Et mes respects à Jean-Luc Lemoine, bonjour Jean-Luc.
Pourquoi il est plus là que moi, Olivier Benkemoun? Bonjour Philippe.
J'aime que vous êtes jaloux.
Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez une petite mine. Et si je devais vous décrire, comment je pourrais dire? Vous ressemblez un peu, ça va plaire Mariotte, à, on dirait un boudin blanc sur une plancha.
Oui Philippe, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je dors très mal. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais devenu un tennisman français à Roland-Garros.
Ah, oui.
C'était très angoissant. D'ailleurs, on fait toujours une délocalisation à Roland-Garros,
oui,
vendredi prochain.
Vendredi, ouais.
Bah, ça serait bien qu'on invite un tennisman français dans l'émission. Comme ça, il y en aura au moins qui sera là en deuxième semaine. Mais sinon, je voudrais revenir deux secondes là sur votre lancement. Là. Boudin blanc sur une plancha, vous êtes sérieux? Vous rendez compte que je vous fais dire n'importe quoi, Philippe?
Ah oui.
Et je le regrette, car vous vous débrouillez très bien sans moi. La semaine dernière, on n'a toujours pas compris ce que vous vouliez dire avec cette phrase.
L'actualité et les coulisses du sport business avec Sacha Nokovic du journal L'Équipe. Et puis Laurent Mariotte va nous rejoindre. On va voir ce qui va nous déboucher. Eux aussi...
Pardon, excusez-moi, c'est quand même un lancement de film érotique.
Non. Qu'est-ce que c'est ce lancement?
C'est quoi sa fonction dans l'émission, Laurent Mariotte? On l'appelle le déboucheur. À moins qu'il y ait une nouvelle rubrique, hein, les indispensables plomberies, mais je crois pas. Ou sinon, vous n'étiez pas dans votre état normal. Je sais pas.
C'est possible.
C'est le risque de l'émission du vendredi. On prend un à-compte sur le week-end, même si on veut faire croire le contraire.
Bon, il est 9h04 Philippe. Et 6 secondes. On est au jus de fruits. On va attendre 11h pour passer au rosé.
Ouais,
moi, je travaille là. Allez, on déboucher les bouteilles. Bonjour à toutes et à tous. C'est à ne pas consommer avec modération cette émission. C'est Culture Mania.
Culture Mania, bien sûr. Philippe, je vous aime beaucoup, mais au bout de 4 ans, il faudrait que vous connaissiez enfin le nom de votre émission.
On n'a pas une dedans.
Même si, bravo. Au fait, je voulais vous féliciter, Philippe. Visiblement, vous êtes enfin débarrassé d'Anissa. Depuis le temps que vous lui disiez au revoir avant chaque émission.
17 degrés à Cherbourg.
Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Très belle matinée à l'écoute d'Europe 1. Et tout de suite, Philippe Vandel.
Salut, Romain Oké, à demain. Salut, Anissa.
Salut, Anissa. Elle a enfin compris votre message. Alors, évidemment, la question, c'est, en son absence, qui va nous parler anglais aujourd'hui? Eh ben, Olivier Benkemoun.
C'est plus le stock exchange, j'ai mal dit stock exchange.
Oui.
C'est ça qui vous fait rire, Philippe, je le savais.
Je voudrais pas dénoncer, mais j'ai l'impression qu'Olivier, il fait comme vous, Philippe. Il s'en jette un petit derrière la cravate avant le direct. Hein, Olivier? Il faudrait vraiment songer à avancer l'horaire de votre émission sur CNews. Parce que j'ai regardé cette semaine le meilleur de l'info. Hein, 21h. C'est beaucoup trop proche de l'heure de l'apéro.
Et puis, on vous racontera une histoire, alors sans doute très très choquante, mais un pasteur est menacé de décapitation. Ça, c'est Jean-Marc Morandini, on l'a parlé à Strasbourg. Et puis, vous entendrez aussi le témoignage de Maïlis.
Strasbourg, témoignage. Visiblement, vous avez fait tomber quelques syllabes dans votre cocktail avant de prendre l'antenne. Et c'est encore plus flagrant si on ralentit un peu l'extrait.
Ça, c'est Jean-Marc Morandini. On a parlé à Strasbourg. Et puis, vous entendrez aussi le témoignage de Maïlis.
Ça le fait, hein.
On a des beaux champions dans l'émission quand même. Hein. L'autre jour, j'avais souligné cette transition malheureuse d'Anissa avec Laurie Choleva, venue nous parler du poids de l'âge pour les femmes.
Et Sébastien Bordenave, lui, a choisi un roman graphique qui parle d'un sujet peu traité, la ménopause, Laurie, et pourtant en France...
Oui, alors... Philippe avait bien rigolé. Il s'était bien moqué de la maladresse d'Anissa. Et ben mercredi, on recevait Maxime Le Forestier. Et il y avait Olivier Benkemoun.
De Niro, on a appris qu'à 79 ans, il devenait papa. Et alors ce matin, j'ai appris aussi que Al Pacino, lui aussi, attendait un enfant.
Ça vous tente de ce film, Maxime Le Forestier?
Je ne dirais qu'une seule chose, B-R-A-V-O, bravo. Un sujet qui a beaucoup fait parler, cette paternité tardive des deux comédiens. Car oui, j'ai aussi regardé les autres chaînes. Et chez Estelle Midi, ils étaient assez choqués par la nouvelle. La seule à défendre le projet, c'était Estelle Denis.
Je trouve ça scandaleux parce que c'est de la fabrique à orphelins. Je
ne
dis pas que ça va être un mauvais père.
Il va pas être père longtemps.
Je dis que ça va être un père court.
C'est totalement irresponsable. Jeanne Calment est morte à 119 ans, donc ça lui fait quand même encore 17 plus 19, 33.
Alors c'est un très bon argument d'Estelle, hein, mais j'ai mené mon enquête sur ces dernières années. Jeanne Calment allaitait beaucoup plus, beaucoup plus.
Ah c'est lui.
J'ai aussi regardé le trésor de TF1 et figurez-vous que ça y est, la casserolade se décline pour tous les sujets.
Des casseroles pour accueillir ces croisiéristes en escale à Douarnenez. Tous ici dénoncent la démesure du tourisme de croisière
Un mouvement que contestent d'autres habitants, notamment les commerçants.
Je peux comprendre que ça dérange certaines personnes, mais bon, on peut manifester dans le silence aussi.
Alors, ce monsieur est gentil, mais une manifestation sans bruit, c'est plus une manif, c'est une bibliothèque. Chut, je parle trop fort. Bon week-end à tous.
Merci Jean-Luc Lemoine. Et on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre. Ça sera de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et son invité, justement un habitué des plateaux de cinéma.
Bonjour Franck Gastambide.
Bonjour Philippe Vandel.
Comédien, réalisateur, on vous doit Les Kaira, puis Pattaya, des films à l'humour un peu potage dans l'univers de la banlieue. Il y a aussi eu Taxi 5 et puis vous avez changé de dimension avec la série Validée autour du rap. Deux saisons seulement, dès la première saison, le record de vues pour une série sur Canal, 20 millions. Et votre actu, c'est ce film Medellin avec Ramzi Bedia. Il y a vos acolytes, Anouar Toubali, Brahim Boulel. Et dans le casting, un totem planétaire, Mike Tyson en personne. Vous êtes allé tourner au fin fond de la Colombie avec des effets spéciaux, un peu comme dans un blockbuster. D'abord, pourquoi la Colombie ?
Bah parce que c'est un pays qui me fascine, un pays que j'admire, avec une population dont je savais que la culture était incroyablement riche. Et puis, un terrain de jeu génial pour raconter une histoire dans l'univers de Pablo Escobar.
Le synopsis, justement, c'est quoi l'histoire ? C'est des petits Français qui vont en Colombie. Que vont-ils faire là-bas ?
Ouais, Philippe, je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passerait si un de mes proches se faisait enlever par une équipe de méchants, en l'occurrence les gens du cartel de Medellin. Est-ce que j'attendrais que l'État français le sauve ou est-ce que je serais porté par l'amour fraternel et j'irais essayer de le sauver ? Voilà le postulat de départ.
Avec une histoire géniale, c'est son petit frère qui se fait enlever, c'est le petit frère de Ramzi. Et son plan machiavélique, c'est un échange.
Ouais. Et c'est une très mauvaise idée.
Voilà, l'échange, c'est avec le fils du patron du cartel. Ouais. Et vous savez que c'était la seule chose que jamais la police colombienne n'avait faite à Escobar, c'est toucher à son fils.
Ouais, évidemment.
Parce qu'il savait que c'était motif de guerre. Et quand on dit guerre pour le grand Escobar, enfin plutôt de la grande époque, pas si grande que ça, c'était très dangereux. On entend la bande-annonce et on en parle.
Tout a commencé il y a 3 jours, avec cet appel.
Vareda,
viens tout de suite.
L'enlèvement de ce jeune influenceur
par des hommes du cartel de Medellín.
Tu vas me laisser aller seul sauver la vie de mon petit frère ? Ces mecs-là, c'est pas les petits du quartier à qui tu mets des coups de pression. T'insinues que je mets des coups de pression aux petits ?
Ok, rien, vas-y, rebelle.
Tienes mi hermano ? Tenemos un narco !
C'est quoi ce bordel ? On est complètement parti en couille, là. Tu gardes ton calme.
Hola ! Hola, señor ! ¿Cómo estás ?
Tu vas à mourir.
Moi, y'a pas de mourir,
non,
moi
non, non,
mais
non.
T'es qui, tu laisses?
Moi,
pour qui,
homme de gold? T'as dit que tu gardes ton calme.
Non,
ok, je prends le gagnant. Et alors, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a un homme qui peut vous aider.
My God, you have grown.
Pourquoi tu l'embrouilles pas comme les autres, lui?
Eh ben, c'est sympa, j'ai pas à l'embrouiller.
On entend le travail du son, c'est aussi un film d'action.
Bah ouais, c'est vraiment un film d'action et après de comédie. Moi qui étais plutôt habitué à faire des comédies, bah oui, ouais, c'est ça.
Et puis le casting, Mike Tyson, la Colombie, c'est comment Mike Tyson en Colombie avec Franck Gastambide ? Ça tombe très très bien, Gastambide est avec nous, Culture Média continue sur Europe 1.
Europe 1.
Et jusqu'à 11h, c'est Culture Média avec Philippe Vandel.
On parle de ce film Medellin, film signé et avec Franck Gastambide. C'est un film d'action, je l'ai dit, mais au départ, c'est une comédie. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est un peu une bande de bras cassés quand même. Ramzi, c'est un patron de club de boxe, mais il boxe jamais lui-même.
Ouais, écoute, c'est l'humour que j'aime, l'humour un peu burlesque, second degré. Et tout ça dans un univers un peu fou avec de l'action. Et puis tu sais, le cinéma, ce cinéma-là, la comédie d'action, est un registre qu'on fait quasiment pas en France en fait, et dont je suis très fan, donc je m'y suis collé.
On va entendre un extrait qui se passe au début du film, c'est avant le grand voyage, c'est même à l'aéroport. Vous, Franck, vous êtes plus tout à fait certain de vouloir accompagner Ramzi, je donne les noms des comédiens, pour voler au secours du petit frère.
Bon bah, on y va. Quoi ? T'as dit quoi là ?
Moi j'ai dit on y va pas.
Non, on y va.
On va pas aller à deux affronter les mecs du cartel de Medellin, tu réfléchis ?
Vous n'êtes pas à deux, messieurs. Je suis là.
Bon, ok, on est deux. Mais les mecs des cartels, c'est des mecs de la rue. Et ben moi aussi, je suis un mec de la rue. Et je vais aller leur expliquer qu'il faut pas rigoler avec moi.
De quelle rue tu parles ?
Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez vos chamailleries.
Et suivez-moi, on y va.
Tu me fais ça à moi ?
Quoi ?
Allez, messieurs.
Donc ça fait 30 piges qu'on se connaît, hein. Et tu vas me laisser aller seul sauver la vie de mon petit frère ?
Non, c'est juste que je pense qu'il doit y avoir un autre moyen de le sortir de là.
Mais quel autre moyen ? Quel autre moyen ? Tu vas faire quoi ? Tu vas écrire une lettre au président ? Putain ! Je vais y aller, moi !
Vous n'êtes pas deux, dit un personnage, il dit moi je suis là, dites qui il est, parce qu'on l'a pas à l'image, et pour qui n'a pas vu vos films, il ne sait pas, c'est un de vos acteurs fétiches.
Oui, c'est Anouar Toubali qui est dans tous mes films, qui est une personne de petite taille, et évidemment quand il nous dit vous n'êtes pas deux, je suis là pour aller affronter le cartel de Medellin, c'est pas à lui qu'on aurait pensé en premier.
Voilà, et vous gênez pas pour faire des blagues sur les nains, c'est pas toujours politiquement correct.
Ah bah non, mais dans ce cas-là, je ferais pas de comédie si c'était pour être politiquement correct. Et puis surtout, vous savez, Anouar, c'est d'abord mon ami dans la vie et on se concerte beaucoup pour ces histoires-là. On sait qu'on est dans une époque où il faut faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. En revanche, lui, il a compris depuis bien longtemps que sa petite taille était un atout pour faire rire, pour se faire aimer. Et il est très en demande de ça et il adore ça. Et il faut regarder ça sans aucune gêne.
Et puis, il y a Mike Tyson, ancien champion du monde de boxe, le plus grand depuis Mohamed Ali. Comment vous avez eu l'idée de faire tourner Tyson et comment l'avez-vous convaincu ?
Alors Tyson, c'est le rêve de gosse. Au moment où je l'ai évoqué avec Ramzy, on avait du mal à croire que c'était possible. Et puis, on l'a convaincu en lui écrivant une lettre, en lui expliquant qui on est, pourquoi on rêve de l'avoir, en lui expliquant qu'on se levait à 4h du matin pour regarder ses combats. Et puis surtout, ce qui le convainc, alors évidemment les gens disent toujours c'est l'argent, alors, évidemment qu'il est payé pour faire ce film, mais ce qui le convainc, c'est qu'on lui propose un vrai rôle et pas juste une petite apparition en tant que Mike Tyson, comme il a pu le faire dans Very Bad Trip, ce qui était d'ailleurs génial. Là, l'idée, c'est qu'il ait un vrai rôle, qu'il ait vraiment du texte. C'est important de se dire que c'est notre sauveur dans le film et il a aimé ce challenge. Il l'a tellement aimé qu'il joue le jeu avec nous sur la promo. Je suis ravi de ça parce que je vois que sur Instagram, il poste la bande-annonce, l'affiche. Bon, c'est le rêve de gosse pour nous.
La première rencontre était prévue la veille du tournage et vous avez préféré annuler.
Alors, en fait, c'est lui un peu qui a annulé, puisqu'au moment où je dois aller le rencontrer à son hôtel, on m'envoie un message pour me dire « Écoute, c'est pas le bonsoir, il est de mauvaise humeur, Mike. » Évidemment, personne n'a envie de rencontrer Mike Tyson quand il est de mauvaise humeur.
Ouais.
Et donc, j'ai dû attendre le lendemain où il était de bien meilleure composition.
Et alors, c'était comment ? Vous étiez impressionné ou très impressionné ?
Terriblement impressionné. Ramzy aussi, je dois le dire. Ramzy, que vous connaissez, qui a toujours la bonne blague et la bonne attitude. Là, il était complètement éteint. On était tous éteints face aux champions.
Je crois que je n'ai jamais entendu de ma vie Ramzy silencieux.
Ouais, c'est ça. Et ben là, je peux te dire qu'il n'y avait plus un bruit qui sortait de sa bouche.
Et puis, il y avait des conditions de tournage insensées.
Ouais.
Autour de lui.
Ouais. Alors, qui sont des choses que je pense qu'il n'a pas demandé, mais vous savez, Tyson, c'est un peu le patrimoine américain. Et tourner en Colombie, pour les Américains, ça pouvait avoir un risque. Et donc, il y a un agent de la CIA qui était venu vérifier que tout allait bien. Et il y a l'armée colombienne qui était là pour l'accueillir. Ouais, ça reste pas anodin d'avoir Mike Tyson sur son tournage.
Il y a une scène, Tyson vous met des claques. C'est comment de se prendre une baffe par Tyson ?
Alors, je dois vous avouer que lâchement, j'ai décidé de mettre Ramzy à sa droite. Et vous savez que Tyson est droitier. Donc c'est Ramzy qui a mangé les plus grosses claques. Et pour lui, c'était violent parce que vous savez que Tyson, même s'il met 10% de sa force, c'est quand même bien plus que nous tous réunis.
Ah, il les faisait vraiment, c'était pas des claques de cinéma quand même. Non, vous l'avez senti un peu passer.
Ah non, on les a vraiment violemment sentis. En fait.
Et attendez, parce que là, je vais faire ma petite question psychanalytique. Mais c'est le scénario, c'est il vous met pas des claques. Vous avez écrit que Tyson vous met une claque.
Alors.
Vous êtes SM et vous faites votre coming out là à l'instant.
Non, Philippe, la réalité, c'est que. J'ai eu l'idée le matin même, c'était pas prévu, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de cascadeur, qu'on n'a pas le temps d'apprendre à éviter la claque comme on fait au cinéma. Il nous les a mis pour de bon. Plus on avançait dans le tournage, plus Mike Tyson était détendu, avait envie de s'amuser avec nous. Et j'ai fini par dire « Mike, ça t'amuse de faire ça ?» Il s'est éclaté de rire, il m'a dit « Moi ça m'amuse, c'est pour vous. » Et on l'a fait pour de bon.
J'ai une question. Je sais que vous avez une appétence pour le dressage des chiens. Il se trouve que Philippe et moi avons une passion pour les chats. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de dresser des chats pour le cinéma ?
Oui. Je me rappelle avoir... Mais c'est pas vraiment dressé, parce que vous savez, les chats...
Ils sont indomptables.
Ils sont, ouais, et puis ils ont leur caractère. Mais oui, j'ai fait toutes sortes d'animaux pour le cinéma.
Okay. Et on va parler des chiens dans la prochaine partie de l'émission. Culture Média continue sur Europe 1. On est avec Franck Castambide.
Europe 1.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Philippe Vandel, c'est Culture Média.
On est avec Franck Castambide, présente son nouveau film à voir sur Prime Video. Prime Video, c'est Amazon Prime, ça s'appelle Medellin. Non seulement vous avez tourné en Colombie, non seulement vous avez tourné à Medellin, mais vous avez tourné dans un quartier particulier de Medellin.
Le barrio Pablo Escobar, qui est un quartier qu'a fait construire l'ancien patron de la drogue. Écoute, c'était un peu particulier parce que, comme tu le sais, l'intégralité de la Colombie déteste Escobar et ce qu'il a laissé, et c'est bien normal. Mais il subsiste particulièrement dans ce quartier une admiration puisque c'est des pauvres gens qui n'avaient rien. Escobar a fait construire ce barrio et ça c'est l'histoire de la vie. Quand tu donnes rien à des gens, quand des gens n'ont rien et que tu leur donnes un petit peu, tu finis par les avoir un peu. Je pense que c'était d'ailleurs une mauvaise intention d'Escobar, qu'il a fait ça pour les manipuler, mais toujours est-il que dans ce barrio spécifiquement, il continue à l'aimer, oui.
Et je dois dire que c'est pas non plus un film à la gloire de la drogue et des narcoses. Vers la fin du film, il y a Ramzy qui pique une colère contre son frère, joué par Brahim Boulay, et il dit « T'es fan de Pablo Escobar, t'es fan de Tony Montana, tu peux pas être fan de quelqu'un qui fait des choses bien. »
Ouais, bah elle est importante cette phrase, merci de l'évoquer. C'est aussi ce que je voulais raconter dans ce film, c'est que j'ai toujours été très étonné de l'admiration qu'ont certains pour les mauvais garçons. On peut comprendre la fascination, mais il y a en Colombie des gens qui sont très admiratifs d'Escobar, qui vont se recueillir sur sa tombe. Et le cinéma a souvent entretenu ces clichés-là. Par exemple, on aime Tony Montana, qui est quand même quelqu'un qui vendait de la drogue, qui était loin d'être quelqu'un d'admirable. Moi, en grand fan de Rocky et des valeurs qu'il y a dans ces films-là, je me suis toujours posé la question de pourquoi on pouvait avoir une admiration pour les mauvais garçons.
C'est un sujet psychanalytique, on ne va pas le traiter aujourd'hui. Il y a des mauvais garçons dans votre film, Olivier, ou pas ?
Évidemment, évidemment.
Attendez, juste un mot. Oui. C'est jamais arrivé encore dans cette émission avec Franck Gastambide. Vous avez fait tourner Olivier Benkemoun.
Oui, c'est vrai.
Il est comment ? Il avait oublié. Il est comment sur un tournage
Attends,
avec Benkemoun ?
Il faut que je te dise la vérité, j'étais pas là le jour où il a tourné. J'ai honte.
Non, c'est
Pardon,
pas vrai.
Olivier.
Non, si, si. J'étais là, mais tu t'en souviens pas, c'est ça le pire.
Mais j'étais là. Mais
bien les sûr, gars, là. Vous réglerez votre compte à la machine à café, il y a une chronique à faire, il y a un indispensable à faire. Ce matin, votre indispensable, Olivier, c'est un film intitulé Renfield, ça se prononce comme ça ?
Renfield, absolument, c'est un film de genre, une revisitation moderne, comme on dit en Suisse, revisitation de Dracula, avec Nicolas Cage, avec beaucoup, 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 beaucoup de sang qui gicle.
Je suis le comte Dracula.
Ok, je m'incline.
Voilà, c'est vraiment un film pour Franck parce que je me suis aperçu que vous n'aimiez pas la vue du sang au cinéma. Dans Medellin, quand un requin bouffe les jambes d'un narco, il n'y a pas de grandes giclées folles. Quand un chien mange un bras, il pourrait y avoir des torrents d'hémoglobine. Mais non, vous êtes dans la retenue sanguine, Franck. J'ai remarqué, les bagnoles, vous êtes maître dans l'art de la course-poursuite. L'humour, bon, c'est bon, vous avez Ramzy. Les animaux, vous maîtrisez à fond. Mais
entendu,
le sang,
il est pas drôle, lui.
Mais le sang, ouais. Je m'appelle, il y a une sorte de pudeur. Il vous faut donc une sorte de film déclic, Renfield.
La table !
Alors commençons par l'entrée, parce qu'on est à table. Le film s'appelle Renfield et pas Dracula. Si vous avez lu le roman de Bram Stoker, vous savez que Renfield, ou vous savez pas, vous avez oublié, est l'assistant soumis et zoophage de Dracula.
Lui.
Son truc à lui, c'est de manger des mouches. Il n'a pas encore le statut de vampire. Il espère qu'un jour, Dracula fera de lui un vrai vampire. En attendant, il fournit sa nourriture humaine au comte. Sauf qu'après un siècle de soumission, puisque l'histoire se passe aujourd'hui, il s'est un peu lassé, Renfield. Typique d'une relation dominé-dominateur. Et le film commence de manière assez originale, où l'on retrouve ce Renfield dans un groupe de paroles très américain. Les gens sont assis en cercle, en train d'expliquer que son boss, c'est un pervers narcissique violent et qu'il est dans une relation toxique.
Il faut que je me sorte d'une relation toxique horrible.
Tu lui amènes des gens à manger ?
Je fais aussi d'autres trucs.
Genre quoi ? Tu lui laves sa cape ?
Voilà, c'est une comédie aussi. Hein. Curieusement, ensuite, ça va ensuite tourner au film de Kung-Fu. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ça s'avate pas mal dans un film. Il a beau être qu'un serviteur, quand il commence à manger des bestioles, il a une force surhumaine, il t'arrache un bras, une jambe, il te découpe une tête avec une facilité incroyable. Il y a des litres et des litres et des litres, encore une fois, d'hémoglobine. Et puis surtout, il y a Nicolas Cage.
On m'appelle le maître des ténèbres. Ou encore le seigneur de la mort. Mais le plus souvent, on m'appelle simplement
le patron de Renfield.
Alors, même doublé, je le trouve bon, Nicolas Cage, puisqu'on parlait tout à l'heure de doublage. Franck, vous ne faites pas assez tourner, je trouve, Nicolas Cage, dans vos films, dans vos séries.
T'as vraiment raison.
Ouais, le gars du potentiel. Hein.
Oui.
Bon, à part un blédard dans Pattaya, je crois qu'il peut tout jouer. Oui, il a tout joué. Mais il n'avait pas fait Dracula. Ça lui permet d'explorer une nouvelle folie et de le voir à nouveau se transformer, en tout cas voir son visage se transformer de la décomposition ignoble jusqu'au très chic conte des ténèbres au cours d'un film qui est quand même, faut être honnête, un gloubi-boulga scénaristique qui mélange des mafieux, des histoires de drogue, des policiers corrompus. Mais ce n'est pas grave parce qu'au final, il y a de l'humour, de l'horreur, des psychopathes et des litres et des litres et des litres de sang. Bref, un vrai film de série B qui fera survivre au-delà du temps et des ténèbres hollywoodiennes ce génie de Nick Cage.
Mes légions infernales vont punir le monde.
Ok, manifestement, ce n'est pas qu'une simple question de narcissisme.
Donc, ça s'appelle Renfield, réalisé par Chris McKay avec Nicolas Holt et Nick Nicolas Cage. Nick c'est Cage, au cinéma Nick depuis, Cage. Il y avait écrit Nicolas, c'est pour ça que je dis Nicolas. Je dis tiens, pourquoi on met Nicolas ? C'est au cinéma depuis mercredi, ça vous tente ce genre de film de genre, justement ?
Bah oui, il y a forcément toujours des choses à apprendre en plus quand on est metteur en scène dans ce genre de film. Il y a plein d'idées, c'est des films d'idées quoi, tout ça.
Hé, hey, comment il s'appelle votre méchant Raymond Cruz ? Ouais. Vous dites qu'il vous a donné, on le voit dans Breaking Bad, vous dites qu'il vous a donné une sorte de leçon de professionnalisme.
Ouais,
qu'est-ce
vrai.
Qu'il vous a appris ?
Il m'a appris, il a appris pour les autres comédiens aussi l'amour du plateau, c'est-à-dire que je me rappelle que lors de son premier jour de tournage, bon d'abord, moi je suis fan de Breaking Bad, et avoir ce mec c'était quand même assez dingue. C'est vraiment, il fait partie des seconds couteaux d'Hollywood, mais qui sont des mecs qui tournent beaucoup. Et il est arrivé sur le tournage, il a fait ses scènes, il est parti se changer, on lui a tous dit au revoir, et en fait il est revenu, il s'est assis au moniteur, et il a regardé toute la journée les autres tourner pour comprendre dans quelle ambiance il était, quel genre de plateau c'était. Et moi, j'ai dit à Noir et Ramzi, vous avez vu les gars, vous, dès que vous ouais. finissez la salle, ils finissent leur scène, ils sont déjà à l'hôtel, tu sais pas comment ils sont arrivés assez vite. Et les Américains, il est là, il continue à regarder, il s'imprègne pour les jours d'après, c'était assez impressionnant.
Impressionnant cette histoire. On va parler gastronomie avec Laurent Mariotte. Je vous demandais ce que vous avez déjeuné, dîné, petit déjeuner à Medellin, mais d'abord musique.
Europe 1.
Et vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Philippe Vandel et Les Indispensables.
Les Indispensables, il est resté sur ce plateau, Olivier Benkemoun, Franck Gastambide, évidemment il n'allait pas partir, c'est notre invité en majesté, il présente son film Medellin, vous l'avez tourné à Medellin en Colombie, c'était bon là-bas la nourriture, le catering, j'ai appris ce que voulait dire BBC, vous savez ou pas ?
Non.
C'est la mauvaise nourriture dans les catering, bad, j'ai oublié le B,
ah.
Le deuxième B et catering.
Écoute, oui, en fait, tu sais...
Bad backstage catering.
Ah.
La mauvaise bouffe qu'on nous sert à l'arrière.
Écoute, plus je voyage et plus je me rends compte qu'on a un pays incroyable pour la nourriture, mais on s'est régalé des empanadas quand même.
Ah bah,
c'est voilà. quand même le pays pour ça.
C'est ouais. ces petits chaussons farcis avec plein de garnitures différentes. En
voilà.
plus.
Ouais, ouais.
Laurent Mariotte, n'importe quel sujet, il est sur le coup. Il sait ce que sont les empanadas, comment ça se fabrique et les pointus. Aujourd'hui, on parlait d'un indispensable de l'apéro, mais là, un indispensable français, monsieur Gastambide, le saucisson.
Alors, les amis, chers auditeurs d'Europe 1, demain est un grand jour vraiment dans le monde de la charcuterie. Demain démarre le mondial du saucisson à Orange dans le Vaucluse. Et la bonne nouvelle, c'est que ça continue dimanche. Donc deux jours à Orange à Vaucluse, le mondial du saucisson. Non mais c'est du sérieux.
Attendez, ils viennent d'où le mondial ? Il y a un Belge, un Suisse et nous ?
Le Canada, l'Australie, ils viennent du monde entier comme son nom l'indique. Un jury s'apprête à renifler, à disséquer, à se tailler des tranches de saucisson venues des quatre coins du monde. C'est un collectif ardéchois qui s'appelle l'Académie ardéchoise des amateurs de saucisson, plus connu sous le nom de A3S, qui a créé ce concours en 2018. C'est la troisième édition, c'est du sérieux. Hein. C'est parrainé par Régis Marcon, qui est un de nos plus grands chefs cuisiniers quand même, qui a trois étoiles. Ce sont des vraiment fous furieux du bâtonnet de Sifflard qui rendent hommage à Rabelais, l'inventeur du mot saucisson en 1546. Donc ça ne nous rajeunit pas. Et pour l'accompagner, puisque vous vouliez qu'on débouche quelque chose...
Oh non, il a porté du rosé.
Non, c'est pas... Oui, alors vous avez raison, ça ressemble à du rosé.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un jus de rhubarbe, parce qu'il est encore tôt pour boire de l'alcool. Ouais. Et vous allez voir, avec la petite acidité et l'amertume, tenez Olivier, vous allez faire le service. Ça vient de la famille Moine dans les Vosges. Ils en font effectivement façon vin de rhubarbe. Oui, il faut le boire frappé. Et ça va bien cacher le gras de notre saucisson. Alors, il y a trois catégories dans ce mondial. Il y a le saucisson cru tradition pure porc.
Vous êtes venu aussi avec le...
Ah bah évidemment.
Il a la planche, il a le couteau, il a tout.
Il y a tout ce
Regardez-nous,
qu'il faut.
Regardez-nous, voyez-nous sur europe1.fr.
Ah bah oui,
et les tranches sont déjà
c'est du
découpées.
Sérieux. Là, on est dans le saucisson sec. Hein. Séchage et maturation, 14 degrés, 4 semaines vraiment minimum. Ensuite, il y a le saucisson cuit. C'est le fameux saucisson à l'ail de la 7e compagnie. Ou l'andouille, par exemple. Hein. Et puis, il y a le saucisson cru classique international. Alors là, il peut être fait sans viande de porc. Il peut être fait avec du cerf, avec du bœuf, par exemple. Donc, ces catégories seront représentées effectivement là-bas. Voilà, on va vous servir de belles tranches de saucisson. Ça, c'est du porc noir de Bigorre. C'est un cochon élevé en liberté dans le sud-ouest. Ils sont 20 à l'hectare, les cochons, pour faire un saucisson pareil. Ça, c'est la maison Véro, qui est une belle charcuterie parisienne, qui l'a sorti. Et j'en ai taillé quelques tranches pour vous. Vous sentez ce parfum un petit peu ?
Ah oui, ça embaume.
Ça embaume. Mmh. Hein.
C'est l'ail ?
Non, c'est le.
Ah non, mais il n'y a pas d'ail là-dedans. C'est du sec.
Et en revanche, mention spéciale pour le jus de rhubarbe. Un petit délice.
Ça vous plaît ?
Je ne connaissais pas du tout, un petit délice.
C'est un équilibre entre l'acidité et l'amertume. C'est très peu sucré et vous allez voir avec le saucisson, ça va bien trancher le bon gras. Et vous remarquez d'ailleurs, hein, cette tranche de saucisson, il y a une belle répartition de maigre et de gras. C'est pas du mixé, c'est du haché. Et ça, c'est affiné, pareil, minimum 5-6 semaines pour avoir ce bon rapport entre le sec et le gras. Quoi.
Moi, sans le saucisson, j'ai pas droit à ma rhubarbe, là, ma boisson.
Un jus de rhubarbe immédiatement.
Vous êtes un puriste, le saucisson, ça peut se manger et ça peut se déguster comme ça, sans baguette, avec, sans pain avec.
Ah oui, on peut le manger comme ça, c'est bien sûr. Ah oui. Moi, j'aime le manger sans pain. Alors, c'est un mondial du saucisson et il n'y a pas que la France, hein, qui est représentée. Il y a une concurrence qui est assez rude. Il y aura du saucisson québécois sans nitrite, viande de porc bio et du persil de mer qui sera mis à l'intérieur. Mmh. Il y aura du saucisson au cerf de Nouvelle-Calédonie. Mmh. C'est vrai que c'est un gibier qui est assez répandu dans l'archipel. Il y aura du saucisson australien, là, qui est fait avec du maigre de cochon, du gras de cochon affiné, 100 jours. 100 jours d'affinage, ça c'est énorme. Et puis, on n'est vraiment pas dans le concours franchouillard, hein, mais au contraire, il s'agit de célébrer, comme le disent les organisateurs, la civilisation du saucisson sous toutes ses formes. Donc, il n'y a pas que du cochon, je le dis encore, il y a du gibier, on peut même en faire avec de la volaille aussi, si on veut.
Alors, qui sont les meilleurs ? Est-ce que nous, on fait partie du top 5 ?
Eh bien, absolument, c'est une Corse. C'est Noélie Andreucci, qui est une auberge, une charcuterie fermière à plus de 1000 mètres d'altitude à Zévaco, en Corse du Sud. Elle élève les porcs noirs de race Nustral sur 100 hectares depuis 3 générations. Elle a gagné 2 fois la médaille du saucisson sec.
Ouais. Mais là, on n'a pas encore les lauréats de cette saison.
Non, mais c'est la troisième année. Donc, les 2 premières années, c'était elle, oui.
Là, on va lever un paradoxe. La charcuterie, c'est un art français. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de campagnes qui nous incitent à réduire la consommation, notamment de viande. Est-ce que ça marche ?
Pas du tout. Ça ne marche pas du tout. On nous dit de réduire notre consommation de charcuterie. En 2021, 27,2 kg par an et par foyer. Et en 2022, c'est encore augmenté, 28 kg par an et par foyer, à peu près 5% d'augmentation. C'est vrai que c'est festif, c'est rassembleur, il y a ce côté convivial. Et il y a plein de dérivés, effectivement, de charcuterie. Et il y a même les charcuteries de la mer qui ont le vent en poupe aujourd'hui. Ah. On peut faire des chorizos de poulpe, par exemple. On peut faire des saucissons de bonite de thon. Il y a un travail de l'affinage, comme ça, de plus en plus de chefs s'amusent à faire des charcuteries de la mer aussi. Oui.
Demain, 11h, je ne vous ai pas demandé, la table des bons vivants, vous avez qui ?
Demain à 11h, on a Isabelle Mergault qui sera là, absolument. On va parler du Refugee Food Festival, qui est un très très beau festival, avec une chef afghane qui sera avec nous. Et on va faire un dossier sur je ne sais pas quoi cuisiner. C'est une question qui revient régulièrement.
Je vois très bien ce que vous voulez dire.
Voilà, dans la bouche des cuisiniers amateurs. On a plein de solutions pour vous avec de belles recettes couteaux suisses, efficaces et zéro complexe pour cuisiner au quotidien, voilà, sans se stresser.
C'est la cuisine, j'ai rien à mettre, c'est qui ça. Est au placard à vêtements.
Et je voudrais juste saluer Patrick Escudé, qui est l'éleveur de ces cochons porcs noirs de Bigorre, dans le sud du Gers. Pas fait exprès.
Ça vous a tenté, Franck Gaston Bide ?
Bah, j'ai tout goûté, moi.
Et alors ?
Bah, alors j'adore, bravo, et bravo à nos agriculteurs.
Finissez, regardez, c'est prêt. Ouais.
Voilà. Il a fait tomber le saucisson.
Oui, mais il est bien sec, vous avez vu, il a bien rebondi.
Et Jérémy Hébert a trouvé un son qui va aller parfaitement avec l'ambiance du plateau. Et voilà, licence 4, qu'on salue, à consommer avec modération. Mais là, on était au jus de rhubarbe. Merci Laurent Mariotte.
Avec plaisir.
C'est la dernière ligne droite de Culture Média. On est avec Franck Gaston Bide.
Et on retrouve Philippe Vandel pour la suite et fin de Culture Média.
Franck Gaston Bide qui réalise et qui joue dans Medellin. J'avais jamais vu ça. Il y a beaucoup de chiens dans le film et c'est pas un hasard.
Bah oui, c'est la passion de ma vie, les animaux, les chiens en particulier.
Parce que vous êtes entré dans le cinéma par la petite porte.
Ah oui, je dressais des animaux pour le cinéma, des chiens particulièrement. Donc je sais pas si on peut rentrer par une plus petite porte que celle-là dans le cinéma.
Et comment vous êtes passé de dressage de chien à comédien ?
Écoute, par le hasard aussi des rencontres, et puis surtout le fait d'arriver sur des plateaux de cinéma grâce à mes chiens m'a éveillé à d'autres ambitions professionnelles. Je me suis dit peut-être que moi aussi, un jour, je pourrais faire ça. Je n'osais pas vraiment l'assumer, mais en tout cas j'en rêvais, et puis c'est devenu la réalité, ma réalité.
Vous ne l'avez pas caché, vous avez longtemps été complexé par vos résultats scolaires, vous étiez dyslexique. Pas seulement dyslexique, vous aviez quoi d'autre comme...
La dyspraxie, la dyscalculie, la dysorthographie, enfin salade, tomate, oignon, j'ai tous les handicaps invisibles.
Et en même temps, être diagnostiqué, c'est une circonstance HPI.
Ouais, dont je parle peu parce que c'est parfois un peu mal interprété quand on dit HPI. Parfois les gens ont l'impression que donc on a un QI supérieur ou des choses comme ça, et c'est pas du tout ce que je ressens. Mais c'est vrai que ça fait un combo un peu compliqué entre mes handicaps invisibles et le HPI qui m'a empêché d'avoir une scolarité normale et d'avoir accès à des diplômes, pour être clair.
Et maintenant, vous en êtes quasiment fier. Non pas de ne pas avoir de diplôme, mais fier de votre parcours.
Bah, j'essaie d'en être fier. En tout cas, j'assume d'en parler maintenant parce que je suis convaincu que ça peut aider. Et moi, j'aurais aimé, quand j'avais 16 ans et que j'étais convaincu d'être un nul, entendre un mec, peu importe qu'on aime ou pas ce que je fais d'ailleurs, mais qu'on entende quelqu'un dire qu'on peut faire des choses malgré tous ces handicaps invisibles.
Actualité, le plus gros projet français de Netflix, vous êtes dedans, ça va arriver, c'est tourné. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, c'est le remake ambitieux du Salaire de la peur, réalisé par Julien Leclerc, avec à mes côtés Alban Lenoir et Anna Girardot. Et je suis très fier d'être avec eux.
Salaire de la peur, c'est film de Clouseau de 53. C'est réactualisé de quelle manière ? Il y aura des portables ou tout va se passer il y a un siècle ?
Alors c'est évidemment réactualisé, c'est modernisé. Et la présence d'Anna Girardot, qui est une femme dans ce film qui n'en avait pas à l'époque, en est une preuve importante.
Mais là pour l'instant, ce qu'il faut voir, c'est Medellin, film de et avec Franck Gastambide, il y a Ramzi Bedia, et je ne sais pas si on l'a dit, il y a Mike Tyson aussi. Et il y a vos potes Anouar Toubali, Brahim Boulel, qui ne sont pas là que parce qu'ils sont vos potes, qui sont là parce que c'est des très très grands comédiens. Merci d'avoir
merci
été avec nous,
merci,
Franck
merci,
Gastambide. Nous on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média. On va parler de la grande finale de Top Chef avec le finaliste aux dreadlocks et au rire inimitable, c'est Dany. Et puis le chanteur et guitariste Bertignac. Grand retour de Bertignac avec un nouvel album, ça s'appelle Dans le film de ma vie. On reste dans le cinéma. Et on va repartir à Roland-Garros avec Julia Vignali et Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous. D'abord, je vous salue. Ensuite, je pose la question rituelle. Quel est le programme du jour ?
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Alors aujourd'hui, on va parler de la maladie de peau, peut-être non, même je suis sûre, la plus fréquente en France. Celle qui concerne le plus de patients, je crois que c'est plus de 2 millions de personnes qui sont concernées, c'est l'eczéma. On va voir évidemment comment le soulager quand il y a les lésions, quand ça gratte très 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 fort. Et puis surtout, on va voir s'il y a des traitements efficaces, hein. Peut-être pas pour guérir, mais en tout cas pour en finir, pour se sentir bien dans ses baskets.
Chaque fois qu'on parle de ce sujet, ça donne envie de se gratter. Merci beaucoup Franck Gastambide.
Merci à vous.
Merci Marlène, bon week-end
merci.
À l'écoute d'Europe 1.
Salut Philippe.